Voilà, ce cours consacré aux neurosciences va commencer d'abord quand même par un petit complément sur le cours précédent sur l'évolution, l'évolutionnisme, etc. parce qu'il manquait quelques éléments, disons, de conclusion un peu philosophique. Alors d'abord, on avait dit que, selon des spécialistes, la théorie de l'évolution est une vraie théorie scientifique, mais de niveau assez inférieur, parce qu'elle est trop générale, elle n'est pas assez à la fois réfutable, elle n'est pas assez déductive, etc. Donc on peut appeler cette théorie une « low level theory ». Ça ne veut pas dire donc que ce n'est pas une théorie, hein, mais c'est une théorie où il manque encore beaucoup d'éléments pour qu'il soit vraiment une théorie scientifique. Alors je crois que un des problèmes de cette théorie, c'est que on mélange beaucoup de niveaux. On argumente au niveau de la biologie moléculaire, et là on voit qu'il y a une série d'objections possibles, etc. Bien. Et puis alors on passe à une échelle 1000 fois ou 1 million de fois plus grande, hein, et on parle d'organes, de tissus, et puis on passe encore à une échelle 10 ou 100 fois plus grande, on parle d'organismes, et de populations, et de siècles, etc. Donc c'est difficile de faire une théorie, hein, qui soit aussi rigoureuse, alors qu'on fait des bons quand même assez importants dans toutes ces échelles spatiales et même temporelles. C'est d'ailleurs une remarque que faisait Dominique Lambert, c'est qu'il faut que cette théorie, qui est extrêmement englobante, soit développée à des échelles multiples. Multiscale theory. Il faut l'apprendre au niveau de la molécule, il faut l'apprendre au niveau des tissus, puis des organes, puis des individus, etc., puis des populations aussi. Hein. Et donc, cette multiscale theory, comme dit Dominique Lambert, demande encore beaucoup de temps et beaucoup d'esprit critique avant d'être vraiment une théorie solide. Alors, le principe A et le principe B, si vous vous souvenez, hein, le principe A, c'est surtout la descendance, le principe B, c'est la sélection naturelle. Des deux côtés, on peut faire des objections, mais la sélection naturelle, on pourrait aussi appeler ça essai-erreur. Hein, essai-erreur. C'est une manière beaucoup plus vague, peut-être, mais aussi moins animiste, dirais-je, hein, de parler du principe même de l'évolution. Donc il y a beaucoup d'analogies séduisantes, mais qui sont souvent trop vagues et abusives. Mais qui sont séduisantes? C'est quand même un principe directeur, mais il faut critiquer cette théorie au niveau scientifique. Et par exemple, les scientifiques qui mettent dans leur théorie l'intelligent design, hein, qu'il y a vraiment une intentionnalité intelligente à l'intérieur même de la matière, eh bien, selon beaucoup de scientifiques ou de philosophes, ils sortent de la science. Hein. Ils sortent carrément de la science. On ne peut pas parler d'intelligent design au niveau scientifique. On peut en parler au niveau philosophique. Au niveau philosophique, pourquoi pas? Comme je vous ai dit, le philosophe s'informe le plus possible et puis prend une position. Et il l'adopte en première personne et il dit, voilà, j'ai examiné le plus critiquement possible, hein, le plus d'informations possible, et je prends position, et je pense qu'en effet, il y a une téléologie, comme on dit, une finalité dans la nature. Mais c'est une position philosophique. Or, vous savez peut-être que depuis toujours, il y a, je dirais, une échelle entre le matérialisme pur et le spiritualisme pur en philosophie. Il y a la matière, le corps, et puis il y a l'âme, l'esprit. Et les philosophes, depuis toujours, eh bien, se situent quelque part dans cette échelle. Hein, vous avez, je crois, sur votre feuille de route, à la note 2, ben, ce que moi je considère comme les différentes références de cette échelle, le monisme matérialiste, un dualisme empirique, et puis alors une réflexion sur la dualité corps-âme qui est relativement équilibrée, mais il y a aussi un dualisme rationaliste Et enfin, il y a un espèce de monisme spiritualiste. Alors, ces positions, elles existent depuis toujours dans la philosophie. Depuis les premiers philosophes grecs, hein, il y a Épicure d'un côté, il y a Parménide de l'autre. Hein. On ne sait pas bien pourquoi quelqu'un est convaincu que tout est esprit et que la matière est un épiphénomène de l'esprit. Et pourquoi quelqu'un est absolument convaincu du contraire, hein, que tout est matière et que l'esprit, c'est une espèce de buée qui se promène au-dessus. Hein. Alors, parmi les philosophes de la dualité équilibrée, dirais-je, bien, nous avons des gens, bien sûr, comme Aristote, comme saint Thomas d'Aquin, qui essayent vraiment d'équilibrer les deux pôles, hein, le pôle de la matière et le pôle de l'esprit. Et nous pouvons nous amuser, je l'ai fait dans mes cours de philosophie, hein, à essayer de situer tous les philosophes plus ou moins sur ce diagramme, hein, de voir où se trouverait Kant, de voir où se trouverait Descartes, de voir où se trouverait Locke, Hume, Berkeley, bon, des philosophes anglo-saxons, etc. Donc, est-ce qu'il y a une intentionnalité dans la nature? Est-ce que c'est cette intentionnalité qui explique l'évolution? Oui, pour le philosophe qui a opté pour quelque chose de plus spiritualiste, je dirais. Ces mots se trouvent sur votre feuille à la ligne 2. Hein. Ici, je les remets simplement en diagramme. Au niveau de la foi, est-ce que l'évolutionnisme est acceptable? Oui, c'est acceptable. Est-ce que notre foi est compatible avec l'évolutionnisme? Bien sûr, oui. Parce qu'au niveau scientifique, le croyant peut admettre toutes les conclusions de la science, mais il ne va pas en tirer nécessairement des conclusions matérialistes. Il peut très bien les interpréter philosophiquement autrement, de manière plus rationaliste ou idéaliste, ou bien sûr dire oui au Dieu créateur qui se trouve à un niveau différent de la causalité. Dieu ne se trouve pas à un niveau de la causalité, hein, comme le super étant. Il y a eu des tas de discussions là-dessus. Hein, quelle est la nature de Dieu par rapport à la création? Dieu a créé, mais il ne se trouve pas comme un homme qui crée un objet. Hein. Il se trouve à un tout autre niveau. De même pour l'intelligence artificielle. Est-ce que nous devons croire tous ces gens qui nous font un peu trembler en disant que bientôt, eh bien, les ordinateurs vont devenir conscients, vont pouvoir nous parler, nous-mêmes nous convaincre, nous manipuler, nous vaincre, etc. Moi, je pense que c'est une sorte de fake news, hein, qui se répand sur le marché, qui est appuyée par certains faits, mais certains faits qu'on peut interpréter, bien sûr, même scientifiquement, je crois, dans un sens tout à fait différent. Donc, puisque j'avais promis de parler des fake news, eh bien, moi je dirais que, parmi les fake news, c'est la note 1, il y en a de différents types. Il y a bien sûr la fake news où on vous annonce, hein, qu'il y a eu 300 000 personnes alors qu'il n'y en a eu que 10 000, ou bien on vous dit que tel fait n'est pas vrai, que tout le monde sait bien que c'est faux, alors que ça s'est passé. Donc des fake news qui parlent de la factualité, j'en reparlerai encore bien sûr dans les deux cours qui suivent, mais je crois même que des théories, hein, des idéologies pratiquement, comme certaines idéologies évolutionnistes ou certaines idéologies sur l'intelligence artificielle, sont en fait comme des fake news, qui sont peut-être des slow fake news, hein, qui nous pénètrent lentement depuis 150 ans, etc. Hein, et nous sommes convaincus de quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Eh bien, je crois que sur l'évolution, en tout cas, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Voilà, il y a des slow fake news, il y a des quick fake news, hein, et nous en reparlerons. Alors, je passe aux neurosciences. Alors voici les livres, je me suis intéressé à cela évidemment depuis un certain temps bien sûr, mais voici les livres que j'ai lus tout récemment, je les ai mis en bibliographie là-bas et je vais construire mon exposé sur ces trois livres. Le premier est un livre d'un scientifique de la neurobiologie, Jean-Pierre Changeux. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Je me suis appuyé surtout sur ce livre de 1982, L'homme neuronal. Entre-temps, il a écrit d'autres choses. Ce livre a été un peu une bombe parce qu'il disait que l'homme n'est finalement qu'une machine, hein, et que c'est une machine peut-être pas mécanique mais biologique, et qu'on va découvrir absolument tous les mécanismes de cette machine. Il n'est pas le premier à le dire, hein. Lametti a écrit déjà un livre qui s'appelle « L'homme-machine ». Et Descartes lui-même se demandait si les animaux ne sont pas des machines. Puisqu'ils n'ont pas d'esprit, bah, ils sont donc simplement de la matière organisée. Les animaux étaient pour lui peut-être une machine, pas plus. Hein. Donc l'homme de Ronald, Jean-Pierre Changeux. Un second livre sur lequel je vais m'appuyer, c'est Olivier Houdet. L'intelligence humaine n'est pas un algorithme. C'est un psychologue cette fois-ci. Je vous en ferai un peu le parcours biographique, intellectuel. C'est un psychologue qui, comme vous voyez sur la feuille, est né en 1973, donc assez jeune. Hein. Et enfin, sur Marcus Gabriel, qui est ce philosophe dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Lui, c'est un philosophe né en 1980. Donc, ce sont des auteurs assez jeunes et ce sont toutes des publications assez récentes. Changeux, c'est de 82, mais il a continué à publier. Je vous dirai un petit peu ce qu'il en est pour la suite. Alors, vous avez peut-être déjà vu ce signe NBIC. N-B-I-C. Ça, c'est la grande formule du futur. Le futur, c'est NBIC. Ça veut dire les nanotechnologies, N, les biotechnologies, I, c'est l'intelligence artificielle, et C, c'est les cognitive sciences. Voilà, avec ces quatre types de sciences, avec ces quatre méthodologies, nous allons créer le futur, créer l'homme nouveau. C'est un peu la formule du transhumanisme. Les nanotechnologies, pourquoi ? Eh bien, comme vous savez, on parvient à observer, à expliquer en partie, à agir en partie, hein, sur des réalités qui se trouvent à un milliardième de dimension par rapport au mètre. Un milliardième. Donc c'est mètre, millimètre, micron, et encore mille fois plus petit, nanomètre. Et encore dix fois plus petit, l'angström, qui est une mesure pratique pour les atomes. Donc il y a des atomes de l'ordre de l'angström. C'est pour ne pas traîner toujours des zéros et des zéros derrière soi. Alors on essaie de créer une mesure. Eh bien oui, c'est vrai, on travaille donc à ce niveau. Hein. Toute la miniaturisation de beaucoup de technologies est possible grâce à eh bien, cette capacité qu'on a actuellement, eh bien, de travailler à ce niveau, un milliardième de mètre. Les biotechnologies, eh bien oui, tout ce qui touche eh bien, la génétique, la capacité de travailler sur des mutations possibles, travailler sur les gènes, etc., sur les chromosomes, d'abord observer, trouver des explications à certaines anomalies et peut-être intervenir pour les empêcher ou pour créer d'autres hybrides, etc. L'intelligence artificielle, on en a parlé, et les neurosciences, eh bien, c'est l'objet de ce cours-ci. Quelques données, le cerveau compte 80 milliards de neurones. 80 milliards de neurones. L'être humain, comme je l'ai déjà dit une fois, hein, eh bien, a 2% de sa masse concentrée dans son cerveau. 2%, c'est pas beaucoup. Hein. Pour un homme de 80 kg, ça fait 1,6 kg hein, dans la boîte crânienne. Mais ce cerveau consomme 20% de l'énergie totale de la dépense énergétique d'un être humain. C'est très curieux. Hein. Penser, ça fatigue. Le cerveau eh bien, bouffe du glucose. Hein. Il a besoin d'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, eh bien, on flageole et on ne parvient plus à penser comme il faut. C'est nécessaire. Les muscles ont l'air beaucoup plus impressionnants. Eh bien, en fait, ce sont des choses beaucoup plus simples qui ont besoin de moins d'énergie. Alors, une petite remarque sur ces 80 milliards, qu'on ne parvient pas à se représenter, évidemment. Mais dans ce livre-ci, Changeux dit qu'il y en a 30 milliards. En 1982. Et il dit, oui, on a dû réévaluer les 10 milliards. Hein. les 10 milliards qu'il y avait il y a quelques années. Bon, depuis 82, donc on est passé de 10 à 30 et de 30 à 80. Puisque maintenant, on évalue cela, échanger le deal lui-même, hein, on est à 80 milliards. Alors je pense que l'avertissement que nous donnait Dominique Lambert du respect des échelles, hein, et d'une recherche à différents niveaux d'échelle est très important. Est-ce que nous sommes capables de nous imaginer ce qui est grand? Ce qui est grand. Mais évidemment, nous voyons des choses à notre dimension, hein, bien sûr. Donc nous sommes de l'ordre du mètre, de 2 mètres, voilà, disons un être humain. Je vais prendre l'exemple d'un être humain de 2 mètres. Hein. Bon, 1 kilomètre, nous voyons bien ce que c'est. 1000 kilomètres, nous voyons bien ce que c'est. On peut le faire en voiture sur une journée éventuellement, ben, c'est très fatigant. Hein. 1 million de kilomètres. Est-ce que vous vous représentez ce que veut dire 1 million de kilomètres? Personne ne peut se le représenter. Moi, je me le représente en disant qu'un bus ou un camion peut rouler 1 million de kilomètres. Mais ce n'est pas moi qui vais les rouler, évidemment. Et donc, je peux me dire, tiens, tel bus a roulé 1 million de kilomètres. Ça, c'est de l'ordre du possible. Mais c'est très difficile de s'imaginer le grand, alors qu'un million, ce n'est pas encore très grand. Hein. 1 million, ce n'est pas très grand. C'est 10 exposant 6. Or, on va passer à des 10 exposants 15, 21, etc. Est-ce que nous sommes capables de nous imaginer le petit, ce qui est petit? Je vous ai déjà parlé de mètre, millimètre, micron, nanomètre, angström. Donc nous sommes dans le 10 milliardième de mètre. Le mètre, nous sommes 10 milliardième de mètre. Alors, voilà, l'homme est capable de se situer à tel niveau, de faire certaines réflexions sur des éléments qu'il observe, mais commencer à sauter, hein, d'une échelle à l'autre, sauter de l'atome à la molécule, hein, et puis de la molécule à la cellule, puis de la cellule au tissu, puis de... Il y a à chaque fois des bonds énormes. Hein, il y a des bonds énormes, et alors on dit, oui, ben, ça doit s'organiser plus ou moins comme ça, mais tous ces bonds sont assez difficiles à expliquer. Pour le temps, je vous ai dit l'autre fois que notre histoire de 4000 ans, par rapport aux 15 milliards de Big Bang, si ces 15 milliards sont bien estimés, parce que de nouveau, hein, dans toutes ces sciences, on passe facilement de toute façon, c'est un jour 15, puis je ne sais pas, 15 ans plus tard, c'est un peu moins, un peu plus, ça veut dire quelques milliards de plus ou de moins. Hein. Bon, par rapport aux 15 milliards du Big Bang actuellement admis, ben nous sommes dans un rapport de 4 fois 10 exposant 6. Donc là, on est vraiment dans un par rapport au temps aussi, sur une échelle extrêmement impressionnante. Donc je crois qu'il faut toujours réfléchir en se disant, est-ce que nous n'avons pas une erreur de perspective à cause de la dimension des choses ? Et je vous dirai la prochaine fois, en parlant de la bombe atomique, que, d'une certaine manière, Heisenberg a été dépassé parce qu'il s'était trompé d'un facteur 10. Je vais vous raconter l'histoire après, mais dans ses calculs, hein, eh bien, un tout petit zéro, en trop ou en trop peu, fait que ben, l'expérience marche ou ne marche pas. Évidemment. Évidemment. Alors, quelques éléments que j'ai pêchés dans le livre de l'homme neuronal de Changeux. Changeux est donc quelqu'un qui, son parcours, passe de la biologie moléculaire à des considérations sur l'homme neuronal, en disant que voilà, l'homme est en fait une machine de neurones, hein, qui fonctionne plus ou moins comme un ordinateur. Il fait évidemment de temps en temps il met des sourdines à ses comparaisons. Mais c'est quand même un représentant de l'idée un peu matérialiste, hein, monisme matérialiste, ou bien en tout cas fort empirisme. Et donc il proposait, je vais vous lire quelques-unes des conclusions, elles sont sur votre feuille, hein, qu'il tirait de l'étude de certains de ses chapitres. Alors il a... Donc, s'est présenté très fort comme un matérialiste, mais avec le temps, il a peut-être évolué, parce qu'aujourd'hui, il a écrit d'autres livres qui annonce un peu autre chose. Fondement naturel de l'éthique. Bon, là, on pourra se dire, c'est encore un empiriste, mais raison et plaisir. Bon, une même éthique pour tous. Un monde meilleur pour tous. Matière à penser. Du vrai, du beau, du bien. La beauté dans le cerveau. Voilà, toutes sortes de titres. Et on voit bien qu'il s'intéresse, je dirais, de plus en plus profondément, me semble-t-il, à une question humaine, à une question peut-être philosophique. Mais dans son premier livre, il me semble aller souvent assez vite. Alors, par exemple, il développe un chapitre sur le cortex humain cérébral. Il donne des dimensions, des choses intéressantes. Par exemple, le cortex du cerveau couvre une surface de 22 décimètres carrés, ça veut dire plus ou moins un cinquième de mètre, une bande de 20 cm, comme ça. Comment cela se fait-il que dans une boîte crânienne il y ait autant? Eh bien, c'est un peu comme un ballon qu'on a gonflé et qu'on écrase tout à coup dans une boîte crânienne, hein, dans une petite boîte, et donc il y a une grande surface, hein, de cortex, alors qu'il y a un petit volume. Et ça aussi, c'est un élément donc, qu'on remarque de l'évolution. Plus on avance dans l'évolution, eh bien, plus on voit que les cerveaux se compliquent de cette manière-là, avec des plis, hein, qui permettent d'avoir une surface plus grande. Le frontal se développe davantage. Je vais reparler du frontal avec Houdet, très important. Le frontal se développe davantage. D'abord, la position donc, debout permet la bascule occipitale, comme on dit, hein, donc le crâne se positionne autrement, et progressivement, semble-t-il, dans l'échelle des êtres en tout cas, si pas dans l'échelle de l'évolution, eh bien on remarque que le frontal, la partie frontale du cerveau, se développe jusqu'à couvrir 29% de la surface du cortex global. Donc chez l'homme, le frontal est très important, ce qui se passe ici. Alors, il nous donne des chiffres qui nous donnent le vertige, évidemment. Hein. Une section du cortex prise au hasard contient une quantité énorme de synapses. Alors, comme vous savez, les synapses, c'est un relais chimique qui fait passer un signal électrique d'un côté de la cellule vers l'autre côté de la cellule nerveuse. Hein. Donc, entre les deux, il y a un signal chimique qui relaie le code électrique. Et donc, qui peut servir d'inhibiteur, d'accélérateur, de catalyseur, etc. Bon. Eh bien, une section quelconque, de l'ordre de 60 millions de synapses par millimètre carré. 60 millions de synapses par millimètre carré. Il y aurait entre 10 exposant 14 et 10 exposant 15 synapses dans le cortex cérébral de l'homme. Alors, il est capable, avec ses microscopes, etc., d'étudier une cellule, de voir comment ce signal se répand d'une cellule à l'autre. Bon, évidemment, il y a l'effet, je dirais, discriminé, distingué d'une cellule à l'autre, mais surtout, on mesure des effets d'ensemble. Hein, des effets d'ensemble. Voilà, il nous impressionne en disant, par exemple, ceci, si l'on comptait 1000 synapses par seconde, il nous faudrait entre 3000 et 30 000 ans pour les compter toutes. Donc, lorsque lui-même expose à quel point, hein, le nombre d'éléments est important, alors c'est quand même difficile, me semble-t-il, de tirer des conclusions sur une petite section que l'on a observée de très près, avec des conclusions peut-être très, très scientifiques, etc. Lui-même dit d'ailleurs, en répétant ce que dit Atlan, c'est que ce qu'on dit souvent de la complexité du cerveau reflète en fait notre ignorance, hein, du cerveau. Alors, une première conclusion qu'il tire, après avoir fait un chapitre très intéressant de l'ordre de ce que je viens de vous dire, hein, avec les ondes alpha du repos, les ondes bêta de l'activité qu'on peut enregistrer à la surface du crâne, et surtout, c'est un effet d'ensemble à la surface du crâne, mais qu'on peut observer de manière plus précise avec des électrodes extrêmement fines dans le cortex même, pas toujours de l'être humain, au contraire, hein. On va avec des souris, on va avec des rats, etc. Bon, mais avec des pointes extrêmement fines de l'ordre du micron, hein, pour aller voir comment réagit telle et telle cellule nerveuse. Bien, sa première conclusion de ce chapitre, hein, que je vous évoque maintenant, il y a surtout des faits de cet ordre-là. Au niveau des mécanismes, vous avez ça sur votre feuille, hein, une première conclusion. Au niveau des mécanismes élémentaires de la communication nerveuse, rien ne distingue l'homme des animaux. Aucun neurotransmetteur, aucun récepteur ou canal ionique n'est propre à l'homme. Ça, c'est un constat tout à fait neutre. Après avoir, avec Gall, laïcisé l'anatomie du cerveau humain, laïcisons maintenant son activité. Voilà une phrase qui tombe là, comme ça. Hein. Au bout d'un chapitre, on n'a pas, absolument pas parlé de laïcisation de quoi que ce soit. Hein. Non, voilà, ça c'est la finale de son chapitre. Donc je trouve que là, vraiment, il annonce un peu la couleur. Hein. Il veut laïciser l'anatomie du cerveau. Ben, qui l'a jamais sacralisé, je ne sais pas. Enfin, il a peut-être trouvé des prêtres qui sacralisaient le cortex, j'en sais rien. Mais moi, je n'en connais pas, en tout cas. Lui, il veut laïciser l'anatomie du cerveau. Ensuite, il décrit certaines actions, et c'est très intéressant, comme par exemple le chant des grillons, ou bien la fuite du poisson. Alors, il explique comment, en effet, ben, les grillons font bouger leurs élytres, je crois, hein, c'est ça, ils font un bruit qui ressemble à un chant, bon, d'accord. Et alors on entend... Bon, et ça correspond à un petit programme informatique qui se trouve en fait engrammé vraiment, hein, dans des cellules. Et donc on a un programme. Voilà, c'est le programme qui fonctionne. On part, on va au bout, on recommence, on part, on va au bout, on recommence, etc. Et donc, voilà, il observe que certains comportements, de grillons par exemple... Eh bien, sont tout à fait reproductibles sur des programmes. Hein, et que les cellules nerveuses, eh bien, engramment tout à fait ces programmes et puis les mettent en action. De même, la fuite du poisson, le poisson qui a d'habitude deux yeux qui ne sont pas convergents, hein, qui sont à gauche et à droite, bon, ont une cellule qui s'appelle la cellule nerveuse géante de Meautner, eh bien, qui, lorsqu'on passe un certain seuil, il rebrousse chemin, il s'enfuit. Voilà. C'est une technique, hein, qu'on peut observer très facilement, mais qu'on peut aussi, je dirais, mettre en algorithme, important le mot, hein, mettre en algorithme en disant voilà le processus, comment ça se passe. Hein. S'il y a du bruit en dessous de la ligne, il n'y a pas de problème. Et quand on passe au-dessus de la ligne, alors il y a un programme qui se déclenche et le poisson rebrousse chemin. Hop, il s'en va dans l'autre sens, hein, à gauche ou à droite, selon, etc. Bon. Donc, le comportement du poisson est programmable. Il est programmé, il est programmable. La fuite. Alors, il observe que boire, avoir soif, chercher à boire, etc., eh bien, suit exactement un programme précis. Souffrir, également, hein, ça peut se mettre en diagramme et se mettre en algorithme, si on veut, ce qu'on fait lorsqu'on souffre. Jouir, s'irriter... Voilà, pas seulement au niveau humain, mais au niveau animal, etc. Il montre comment ces comportements peuvent être, structurés de manière quasi informatique. Voilà. Alors, il tire la seconde conclusion qui est sur votre feuille. Cet ensemble de réflexions et d'observations qui sont de l'ordre de ce que je viens de vous dire, hein, c'est pas plus philosophique que ça. Mais tout à coup, le dernier paragraphe, c'est « Cet ensemble de réflexions et d'observations conduit non seulement à prendre en compte les mécanismes internes du comportement, mais à adopter vis-à-vis d'eux un point de vue déterministe. » Mais voilà que vient le mot « déterminisme ». On n'a jamais parlé de déterminisme avant, hein, mais le mot arrive là. Rien ne s'oppose plus désormais sur le plan théorique à ce que les conduites de l'homme soient décrites en termes d'activité neuronale. Bon, c'est bien possible, hein. Il est grand temps que l'homme neuronal entre en scène. Et puis on passe au chapitre suivant. Mais donc, voyez là qu'il il tire de son chapeau tout à coup le mot déterminisme, parce qu'il a observé un algorithme, hein, il a observé une séquence logique. Il suffit d'appuyer sur le bouton ici et puis le comportement, il est à la clé, d'accord ? Alors il vient parler de déterminisme. Là, moi aussi, je trouve qu'il fait un bond dans la philosophie. Hein. Il fait un bond dans une interprétation, dans une hermétique de ce qu'il a observé. Alors il fait encore d'autres réflexions sur les objets mentaux, ce que c'est que... une perception, qu'est-ce que c'est que une image, etc. Et là, je trouve que de plus en plus, si on veut, il extrapole. Hein, il extrapole. Donc les objets seraient comme des espèces d'images dessinées dans la toile d'araignée de tous les réseaux entre les neurones. Ça, je crois qu'il a moins d'éléments pour le vérifier, hein, parce qu'on est passé à un autre niveau de dimension. Alors, est-ce que j'ai mis... Non, il y a encore une conclusion qu'il tire, qui n'est pas sur votre feuille. La poursuite et la généralisation de ces réflexions débouchent sur des propositions théoriques qui, bien qu'encore très hypothétiques, se présentent comme une tentative de passerelle au-dessus du fossé qui, pour beaucoup, sépare encore le mental du biologique. Voilà. Beaucoup hésitent encore à faire le bond qui sépare, au-dessus du fossé, qui sépare le mental du biologique, mais lui pense qu'on peut faire des propositions, quoique hypothétiques, dans ce sens. Et puis à la page 209-210, il parle de la substance de l'esprit. Le propos de ce chapitre: détruire les barrières qui séparent le neural du mental et construire une passerelle, aussi fragile soit-elle, permettant de passer de l'un à l'autre, comporte des risques et peut se contester. Le risque principal de cette entreprise est de rester trop simple, de ne pas rendre compte de l'ensemble des processus mentaux, d'être partiel. Soit les données de l'expérience sont encore trop fragmentaires pour aller beaucoup plus loin, il ne s'agit pas du tout d'expliquer, mais de jeter une échelle contre les murs de la Bastille du mental. L'alternative spiritualiste a été maintes fois proposée. Notre choix, contraire à celle-ci, s'ouvre sur l'expérience et suscite une recherche. Voilà, ça, ce sont un peu des déclarations d'intention, hein, qui me semblent aller dans le sens de cet empirisme, hein, qui va expliquer l'homme comme une machine. Alors, je vous présente maintenant Olivier Houdet. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. L'intelligence humaine n'est pas un algorithme. En fait, il précise assez rapidement que l'intelligence humaine n'est pas que un algorithme. Préface de Jean-Pierre Changeux. Alors ici, nous n'avons pas un biologiste. Nous avons un psychologue. Et même un psychologue formé en Belgique. En effet, c'est un Français qui est né en Belgique, il le dit au début de sa présentation, qui a été diplômé comme instituteur de la Haute École Galilée de Bruxelles, ici tout près, qui a commencé l'école de dessin à Saint-Luc, parce qu'il voulait être dessinateur de bande dessinée. C'est quelqu'un qui avait un don pour travailler avec les enfants, et notamment par le dessin. Donc il a commencé à étudier la psychologie à Mons, puis à Paris, et il a étudié enfin, suite à certaines découvertes de psychologie, il a étudié l'imagerie mentale à Lyon. Et il essaie de faire un lien entre les neurosciences et la psychologie, avec l'approbation de Jean-Pierre Changeux, dont je vais vous lire l'un ou l'autre extrait ici, dans cette préface, et qui montre combien lui aussi a un peu évolué. D'abord, Houdet fait une étude approfondie de Piaget. Piaget, ce grand psychologue que vous connaissez sans doute, et qui a étudié, alors ça c'est assez remarquable, je crois qu'il avait deux filles, peut-être trois, en tout cas certainement deux, et il a étudié de manière extrêmement précise leur évolution mentale, leur développement intellectuel. Et il a remarqué des phases, alors là c'est vraiment un peu le contraire du statisticien, hein. Il n'a que deux cas, ce qui n'est absolument pas probant et sérieux en science, il n'a que deux cas. Et bien, à partir de ces deux cas extrêmement bien observés, il a établi des règles fort générales. Fort générales, c'est ça une de ses caractéristiques. Et alors, il montre que l'enfant, au début, n'a pas une pensée logique. Et que, progressivement, il devient de plus en plus logique. Et qu'il atteint une maturité intellectuelle lorsque sa pensée est entièrement logique. Voilà. Alors, pour devenir de plus en plus logique, il doit corriger des erreurs spontanées que tout enfant fait. Ces erreurs, il doit apprendre à les corriger, et quand il les a toutes corrigées, il est devenu un homme logique, une femme logique, puisque c'était deux petites filles. Voilà, on apprend des notions. Des notions. Alors, pour vous montrer le type d'expérience qu'il fait, il y a sept boules l'une à côté de l'autre. Et puis alors, il en met sept autres, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il dit, où est-ce qu'il y a le plus de boules? En bas, évidemment, puisque c'est plus long. On associe la longueur à la quantité. Et puis alors, l'enfant progressivement se dit, non, c'est pas parce qu'elles sont plus écartées, qu'elles sont plus nombreuses, etc. Donc on corrige une espèce d'erreur d'optique. Une erreur d'optique ou une erreur de facilité. Ce qui est nombreux est grand. Il faut corriger. Voilà, il y a donc des discriminations qui s'installent petit à petit dans la conduite de l'enfant. Et selon Piaget, l'enfant est arrivé à maturité lorsqu'il est entièrement logique. Alors peut-être que pour s'amuser ou pour jouer, il peut être encore illogique, mais il sait quand même bien qu'il faut être logique, quoi. Donc ça, c'est un peu l'épistémologie de Piaget, qui étudie à fond Oudé, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, c'est même carrément faux. Parce que, on peut l'observer, bien sûr, mais il met ensemble cette théorie avec ce qu'un autre psychologue a découvert, qui s'appelle Kahneman. Est-ce que je l'ai mis sur la feuille de route?
Oui.
Voilà. Alors, Kahneman est en fait un psychologue, un psychologue qui a reçu le prix Nobel d'économie. Alors vous dites, mais comment est-ce qu'un psychologue peut recevoir un prix Nobel d'économie? Pour cette raison-ci, c'est qu'il a montré que la plupart des êtres humains n'agissent pas de manière logique. Pas du tout. Ils agissent de manière intuitive, rapide, impulsive. Et donc, la plupart du temps, on vous pose une question, vous ne réfléchissez pas beaucoup, vous répondez. Vous êtes quelque part, vous devez prendre une décision, vous partez à gauche, à droite, je ne sais pas, vous avez un ensemble d'éléments, voilà. Moi, j'ai un esprit synthétique, je fais la somme de tout et je pars dans la bonne direction. Bonne direction à voir. Donc, il montre que les êtres humains, pas seulement les enfants, mais les adultes aussi, et surtout certains adultes, lesquels? Les agents économiques. Les agents économiques. Surtout les agents économiques. Ça veut dire l'acheteur, le vendeur, le trader, celui qui est à la bourse, etc. Ils agissent de manière très impulsive. Alors, ils ont des ordinateurs, ils ont des calculs extraordinaires. Donc, ils ont la logistique d'algorithme la plus extraordinaire qu'il faut. Et puis, tout à coup, on achète, on vend, etc. Et il a démontré justement que l'agent économique n'est pas du tout un agent logique. Et donc c'est ainsi que le psychologue a reçu ce prix Nobel d'économie, parce qu'il démontrait quelque chose qui ne semblait pas tout à fait vrai pour les économistes, qui croyaient que les agents économiques réfléchissaient avec des algorithmes, etc., pour faire des bonnes affaires. Non. Alors c'est en mettant ensemble un peu cette idée de Piaget et cette idée de Kahneman que Oudé a proposé cette idée-ci que vous avez sur votre feuille. Il y a trois systèmes cognitifs interdépendants. Il y a trois stratégies de l'intelligence humaine. n'est pas seulement une question d'être capable de faire ceci ou de faire cela, c'est est-ce qu'on va le faire et à quel moment. Il y a les heuristiques, il y a les algorithmes, qui précisément est la logique de Piaget, et enfin il y a l'inhibition des heuristiques pour activer les algorithmes, au cas par cas. Voilà, donc l'idée c'est que les heuristiques, c'est quoi les heuristiques? Eh bien, c'est un raccourci qu'on fait dans sa tête, un raccourci mental, c'est une procédure simplifiée. L'algorithme, c'est une procédure complètement analytique et nécessaire. Qu'est-ce que c'est un algorithme? Eh bien, c'est par exemple une recette de cuisine, c'est un algorithme. On vous dit de faire ça à tel moment, ça à tel autre, etc. Ou bien sûr, un programme informatique. Un algorithme, c'est une série d'opérations à faire dans l'ordre, avec les proportions qu'il faut, dans les moments qu'il faut, etc., pour atteindre un résultat donné. Comment est-ce qu'on fait la division de 174 par 91? Eh bien, c'est une opération qu'on peut apprendre. Il faut commencer par faire ceci, puis par faire cela. Vous le savez tous. Extraire la racine carrée, on aura peut-être oublié. Mais enfin, la division, on s'en souvient encore. On sait bien dans quel sens il faut faire les opérations, une après l'autre. Et si on, évidemment, si on se précipite et qu'on veut faire autre chose, ben, on va se tromper. L'algorithme, donc, c'est une procédure claire, analytique, qui demande de l'attention, de la précision, un effort mental. Eh bien, le cortex humain est très puissant, mais il n'aime pas l'effort. Il est paresseux. Et donc, il va à l'heuristique. L'heuristique, c'est donc un raccourci mental, une procédure simplifiée, simplificatrice, synthétique, qui vise à obtenir le résultat sans passer par tous les pas de l'algorithme rigoureux, fastidieux, demandant un effort de concentration. Mais souvent, l'heuristique se révèle suffisant pour le but escompté. Et l'expérience a validé cette heuristique de manière assez fréquente. Mais nos heuristiques sont bourrées de biais, sont bourrées d'erreurs, de préjugés, d'a priori, auxquels nous n'avons jamais réfléchi. Et si nous devions prendre une affirmation d'une heuristique et puis la passer au crible de l'algorithme, on devrait l'abandonner, parce que c'est bourré d'erreurs. Alors les erreurs peuvent venir de quoi? Des biais idéologiques, politiques, sociologiques, psychologiques, liés à l'histoire des personnes, à leur éducation, à leur langue, à leur sexe, à leur profession, à leur âge, à leur état de santé. Il y a toutes sortes de biais, de déviations qui s'introduisent dans nos heuristiques, mais elles ont l'avantage d'être rapides. Alors quand elles ne sont pas trop souvent fausses, on s'en contente. On ne fait pas le travail de l'algorithme. Donc l'être humain mature qui fait tout le temps des algorithmes, ben il n'existe pas beaucoup. Ce serait bien trop fatigant d'être un homme ou une femme logique. Nous sommes capables de l'être, mais nous n'avons pas envie, nous n'avons pas la force de le faire constamment. Par exemple, je dois évaluer telle voiture, est-elle meilleure que telle autre? Nous avons nos avis parfois très tranchés, surtout si on a déjà bu un verre de bière, fondé sur quelques données exactes, oui, quelques données exactes, mais sur notre expérience aussi, mais aussi sur un tas de préjugés. Elle est bonne puisque mon père l'a achetée il y a 20 ans. Ah oui, mon père ne peut pas se tromper quand même, donc il a acheté une bonne voiture, il y a 20 ans. Oui, mais enfin, la marque, quand... bon, ça. Elle est mauvaise puisqu'elle est fabriquée dans tel pays. Oh, c'est bien, dans tel pays, on fait rien de bon, quoi. Voilà d'habitude comment on juge les choses. Il y a de très nombreuses erreurs dans nos heuristiques. Alors, toujours notre psychologue, là, Olivier Houdet, dit que voilà, l'être humain, en effet, apprend, comme Piaget l'explique, à faire des algorithmes, mais très rapidement, il revient aux préjugés, selon donc ses plus nombreux. Et ça dans tous les domaines, à moins que, évidemment, l'expérience nous lui retombe sur le nez, alors bon, ben alors il doit faire vraiment l'effort. Et entre les deux, dit-il, eh bien, il y a cette prise de conscience que l'heuristique n'est pas bonne et qu'il faut passer à l'algorithme. Et alors on fait l'effort. On fait l'effort de l'algorithme. Voilà, donc nous avons trois systèmes, trois stratégies de pensée interdépendantes. Il faut, souvent on va très vite, et puis quand on se rend compte que c'est faux, on dit stop, il faut arrêter. C'est le principe inhibiteur, c'est la stratégie inhibitrice qui dit stop à l'heuristique, maintenant on passe à l'algorithme. Et ces trois systèmes fonctionnent. Alors l'algorithme peut corriger certaines heuristiques et les améliorer, etc. Et je dirais que quelqu'un, bien sûr, peut avoir des heuristiques meilleures qu'un autre, ou meilleur qu'auparavant, parce qu'à un moment donné, il a fait l'effort d'étudier la question. Il a fait l'effort de se rendre compte où étaient ses biais, ses préjugés, il a essayé de les éliminer, et voilà, il a des heuristiques un peu plus élaborées, un peu plus travaillées, restructurées, etc. Alors ça, c'est une découverte de psychologue. Très intéressante, mais Olivier Houdet a eu l'intelligence, si on veut, de se dire, est-ce que ça correspond à quelque chose dans le cerveau? Est-ce qu'il y a possibilité de mesurer dans le cerveau quelque chose qui correspond à ces trois stratégies? Et grâce à l'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique, il peut observer que, eh bien, que lorsqu'on travaille par heuristique, on travaille plutôt avec la partie arrière du cerveau, l'occipital, et que c'est là que ça fonctionne, on peut mesurer ça. Autrefois, on pouvait le mesurer de manière un peu plus intrusive. Avec l'IRM, c'est beaucoup plus facile. Sur des enfants, sur des adultes, sur des enfants, on voit que les heuristiques fonctionnent à partir de ce qui est à l'arrière du cerveau, et que lorsqu'on se met à corriger son heuristique et à réfléchir de manière algorithmique, on passe au frontal. On passe au frontal. L'activité électrique et chimique passe d'une zone à l'autre. C'est carrément la bascule cérébrale. Alors ça, évidemment, Changeux a été scotché par cette découverte. Il a trouvé que c'était une découverte vraiment intéressante, vraiment extraordinaire, et qui faisait justement une passerelle, un pont, entre une découverte psychologique de l'ordre plus mental, si on veut, je ne dis pas encore philosophique, mais c'est une science humaine, c'est pas une science dure, une science de la nature, et quelque chose de tout à fait mesurable au niveau de l'IRM. Et voilà donc ce qu'il dit dans une citation que Houdet reprend. Avec les acquis d'un savoir scientifique universel, l'homme devrait s'engager à utiliser les facultés créatrices qu'il possède dans son cerveau, entre parenthèses les heuristiques et les algorithmes et les inhibiteurs, pour donner du sens à ce qui en demande le plus l'homme lui-même. Il lui revient de toute urgence d'inventer un modèle éthique qui tranche avec les violences, les intolérances et les crimes de notre passé culturel et assure plus efficacement la survie et le bien-vivre de l'humanité. Il me semble que là, d'une manière, je dirais, plus satisfaisante, eh bien, il rend compte de quelque chose de naturel qu'on observe, de psychologique qu'on observe, et il lui donne un sens philosophique. Voilà. Et Houdet explique aussi que apprendre, c'est bien souvent inhiber en partie son propre cerveau pour soi-même, corriger ses erreurs, ou pour le respect d'autrui. Vous me dites quelque chose, je dis non, c'est faux. Ben, je n'ai même pas examiné ce que vous avez dit. Non, par respect pour autrui, je dois inhiber mon heuristique qui dit je ne suis pas d'accord pour dire ben, examinons, dialoguons. Cette fonction d'inhibition, de résistance du cortex préfrontal rejoint les intérêts premiers de l'éducation nouvelle, servir la paix de l'humanité. Voilà, cette éducation du cortex préfrontal correspond à l'esprit critique et la tolérance que la jeunesse doit cultiver contre la terreur. Voilà, donc il tire aussi quelques conclusions de type éthique de cette bascule cérébrale où on voit donc l'heuristique se corriger elle-même pour devenir quelque chose de plus vraiment raisonnable. Alors, aussi une chose remarquable, l'adolescence. Tout le monde sait bien que l'être humain naît prématuré par rapport à tous les autres animaux. Après quelques heures, je crois, un petit poulain est déjà capable de se mettre sur ses quatre pattes. L'être humain, il faut des années pour réaliser ce que tout le monde fait en naissant, quoi. Bon. Donc c'est vraiment un lent. Hein. Et non seulement un lent, mais un double lent. Parce que à l'adolescence, on recommence tout, quoi. Hein. Alors qu'à l'adolescence, il faut refaire tout un apprentissage de beaucoup de choses dans une crise très importante, qui est une crise hormonale, mais qui est aussi une crise cérébrale. Parce que, précisément, le préfrontal, à l'adolescence, se restructure, je ne sais pas exactement comment, hein, mais il reprend une importance très grande. Et c'est là qu'on voit eh bien, l'adolescent chercher de manière logique, hein, pour une part, hein, la raison du monde, et la critique qu'il fait de tout, etc. Et d'autre part, il peut aussi être dans le pulsionnel complet, hein, lorsque justement le préfrontal eh bien, ne fait pas son travail, ou se laisse déborder. L'adolescence est précisément une maturation du cerveau, lobe préfrontal, qui est plus développé chez l'être humain que chez toutes les autres espèces. Voilà, avec la suite changeux ou dé, nous avons une science naturelle, une science humaine, et maintenant un petit mot de philosophie. D'abord, je dirais que Marcus Gabriel a été pour moi celui qui m'a guidé dans toutes ces recherches. Et si j'en parle moins, c'est parce que j'en parlerai peut-être encore plus tard, mais certainement qu'il est à la base de beaucoup de mes réflexions. Il remarque d'abord le mépris de beaucoup de scientifiques pour l'histoire philosophique de l'esprit. Beaucoup de scientifiques, comme je vous l'ai montré avec les deux petites conclusions de Changeux, hein, après un chapitre comme ça, scientifique, bon, il y a deux lignes de philosophie et c'est réglé, quoi. Hein, il a choisi son camp et voilà, Bergson a tort, et les idéalistes ont tort, et les rationalistes ont tort, etc. Bon, alors qu'il a parlé de cellules et de poissons qui prenaient leur virage, quoi, hein. Donc, pas tout à fait. Beaucoup de scientifiques considèrent que toute l'histoire de la philosophie est nulle et non avenue. C'est du bavardage. Hein. Alors que, évidemment, Gabriel le montre, lui, mais moi aussi comme philosophe et d'autres le savent bien, cette longue histoire de la philosophie est une histoire de l'éducation de l'esprit. Hein. Nous nous éduquons en réfléchissant, non pas en agissant sur des synapses, etc., mais à un niveau d'échelle beaucoup plus haut. Nous réfléchissons, nous sommes capables de comprendre, de vouloir, hein, de nous rassembler autour d'un but, etc. Et donc, le but de son livre, comme il dit, quelque part, eh bien, c'est de défendre la liberté. Voilà, tout au début de son livre, il dit « La défense de notre liberté, de notre libre arbitre, contre cette idée largement répandue que quelqu'un ou quelque chose pourrait nous la confisquer à notre insu, eh bien voilà le but de ce livre. Et quelqu'un ou quelque chose qui pourrait nous confisquer notre liberté, c'est soit Dieu, l'univers, la nature, le cerveau ou la société. » Alors quand il dit « soit Dieu », ce n'est pas parce qu'il est un croyant, au contraire, je pense qu'il est croyant, hein, mais il est philosophe. Et il dit, par exemple, le prédestinationnisme, c'est une théorie théologique, hein, eh bien c'est un déterminisme. On n'a pas dû attendre l'empirisme pour inventer des déterminismes spiritualistes, il y en a aussi. Des déterminismes, on peut en trouver à tous les niveaux. Hein. La liberté, on peut la trouver à tous les niveaux. Mais il faut réfléchir à ce que l'homme a déjà découvert et s'est déjà partagé comme idée. Tout ce vocabulaire qu'il a créé, tous ces raisonnements qu'il a fait, c'est absolument important. Et donc, il est un partisan du néoréalisme et du néo-existentialisme. Non, je n'entre pas dans les détails, mais sa position est antinaturaliste. Ça veut dire qu'il n'existerait qu'une réalité matérielle et énergétique. Il dit non. Tout ne relève pas des sciences de la nature. Il existe des réalités non matérielles. Alors ça, c'est très important, parce que même les plus spiritualistes d'entre nous sont tentés par l'idée que ce qui existe vraiment, quand même, c'est la matière, non ? Ce qui existe vraiment. Le reste, bon, on a des belles idées, on a la foi, mais ce qui existe vraiment, c'est la matière. Mais non ! il existe des tas de réalités non matérielles. Elles existent. Le nombre pi, le deuil, l'Allemagne fédérale, Napoléon, tout ça, ce sont des choses qui existent. Napoléon, on dirait, mais il a existé, mais il y a Napoléon qui a existé, qui a été enterré, etc. D'accord, mais il y a l'idée Napoléon, qui a fondé une nation, qui a signé le Concordat, etc. Hein, Concordat qui mettait l'Église de côté et tout. C'est une réalité spirituelle, rationnelle, extrêmement importante. Je ne dis pas ni plus ni moins importante qu'une montagne, mais ces idées-là ne sont pas là comme une montagne. Hein. Mais on croit toujours que ce qui est là comme une montagne et qu'on ne peut pas bouger, ça, c'est ce qui existe. Et que le reste, bon, on ne sait pas trop comment le situer. Non, pour lui, ces idées existent. Et l'homme se fait une image de lui-même. L'esprit, c'est cette faculté de l'homme de vivre avec une image de lui-même. L'histoire du monde transforme notre autoportrait. L'homme constamment est occupé à se faire une image de lui-même à un niveau individuel, psychologique, mais aussi à un niveau sociologique, à un niveau historique, à un niveau idéologique. Ces images peuvent être déformées ou carrément fausses, illusoires. Elles peuvent provoquer des idéologies. Les hommes changent en changeant leur image du monde. Si à force de science, nous changeons notre image du monde et que nous passons dans le monisme naturaliste, par exemple, ben, nous allons changer notre propre conception de nous-mêmes. C'est évident. Alors, ces idéologies peuvent provenir d'un désir de toute puissance, d'immortalité, d'une fantaisie narcissique, etc. Non, l'homme doit réfléchir à l'image qu'il se fait de lui-même. Chacun individuellement, singulièrement, mais aussi comme groupe, aussi comme nation, aussi comme église, etc. Quelle est l'image que nous nous faisons de nous-mêmes? L'autoportrait que nous nous faisons de nous-mêmes fait partie de notre définition. Si nous changeons notre autoportrait, nous changeons nous-mêmes. Parce que le propre de l'esprit, c'est de se réfléchir, hein, de se proposer à soi-même une image de ce qu'on est. Mais dit-il, à l'époque du désenchantement du monde, il y a beaucoup de réductionnisme, hein, et on ne croit plus à certains idéaux d'autrefois, on ne croit plus à l'esprit, il y a un désenchantement du monde. Vous savez que cette formule vient de Max Weber, hein, et il le disait non pas comme quelque chose dont il se réjouissait, mais plutôt qu'il regrettait. Hein. Et dans nos propres images de nous-mêmes, il y a beaucoup de ce désenchantement, ou de notre propre amour propre blessé, de notre orgueil, etc. Bien sûr, sans cerveau, il n'y a pas d'esprit, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Alors, pour terminer, je vous rappelle les trois polarités anthropologiques de Balthazar, si vous vous en souvenez. L'être humain, pour Balthazar, se définit par trois polarités. La polarité corps-âme, la polarité homme-femme, et la polarité individu-communauté. Tout être humain, c'est en se situant par rapport à chacune de ces polarités, corps et âme, je ne suis pas que corps, je ne suis pas que âme, je ne suis pas homme et femme à la fois, je suis l'un ou l'autre, mais en relation avec l'autre. Je ne suis pas un numéro dans la communauté, je suis un individu, mais je fais partie personnellement de la communauté, etc. Eh bien, le nbik, hein, risque de transformer chacune de ces polarités. En tout cas, la polarité corps-âme, eh bien, nous sommes occupés à la réfléchir avec l'intelligence artificielle, celle de homme-femme avec les biotechnologies, la génétique, etc. Et l'individu-communauté, bah, avec le transhumanisme et avec l'idée que certains hommes, eh bien, à la pointe du progrès, vont être beaucoup plus évolués que les autres, avec une humanité à deux vitesses, bien sûr, et une idéologie à la clé qui est que ben voilà, ben les forts et les meilleurs doivent bien vaincre, quoi, hein, et donc que les autres, ben, tant pis pour eux, hein, ça c'est comme ça. Le plus grand ennemi de l'homme reste l'homme, ce n'est pas la machine, ce n'est pas tout ce qu'on veut, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Pourrait bien, hein, être l'homme, il reste l'homme, c'est l'homme qui doit lui-même faire son autocritique pour savoir ce qu'il veut être, ce qu'il veut devenir, le portrait qu'il se donne à lui-même et qui lui permet d'être ce qu'il veut être dans la liberté que défend Gabriel. Merci beaucoup. Merci.